Alors, merci Steve et toute son équipe pour tous ces beaux chants. Quelle grâce, n'est-ce pas, d'être capable de chanter. Chanter les merveilles de notre grand Dieu, de louer, de bénir. Quelle grâce. Alors, je vous demande de prendre vos Bibles, s'il vous plaît, et trouver encore une fois l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8. Et nous sommes toujours en train d'étudier cette merveilleuse doctrine de la justification par la foi et toutes les bénédictions qui en découlent. Et ici, dans le 8e chapitre, nous sommes en présence d'une vérité d'une importance capitale, la sécurité absolue du croyant, qui est introduite, comme nous avons déjà dit dans le passé, par cette grande déclaration que nous trouvons au premier verset de notre chapitre. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quelle belle parole de réconfort. Et le message de ce matin, c'est le deuxième d'une série sur la sécurité du croyant. Et sécurité qui a pour but de le garder dans sa foi, comme nous avons vu la semaine dernière, enraciné dans l'amour de Dieu, malgré tout ce que les puissances maléfiques ou même les circonstances de la vie peuvent nous apporter. Alors, la semaine dernière, nous avons vu que dans l'adversité, il faut se rappeler, parce qu'on veut bien réagir dans l'adversité. Alors, il faut se rappeler tout d'abord du plan d'amour. Dieu a un plan d'amour. Et nous avons vu cela la semaine dernière, que cela est basé sur sa préscience, sur sa prédestination et sur sa providence. Il nous a choisis, même avant la fondation du monde, pour être ses enfants d'adoption. Prédestiné à être semblable à l'image de son Fils, et il fait concourir toutes choses pour notre bien. Quelle grâce! Nous avons aussi considéré, et il faut aussi se rappeler, la preuve d'amour. Dieu n'a pas dit seulement « je vous aime », mais il s'est mis à l'œuvre. Le texte nous dit qu'il ne nous a pas refusé son Fils. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Alors cela aussi devrait nous sécuriser, fortifier notre foi quand nous sommes dans les épreuves de la vie. Et ça, si nous avons vu cela la semaine dernière dans Romains 8, 31 et 32. Et cela nous amène à notre texte alors pour ce matin, Romains 8, 33 et 34, que nous allons lire maintenant à partir du verset 31, juste pour nous remettre dans le contexte. Alors, Romains 8, 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car, dit Paul, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Quelle sécurité! Alors, comment bien réagir dans l'adversité? Rappelez-vous le plan d'amour, rappelez-vous la preuve d'amour. Et ce matin, nous allons regarder, rappelez-vous, des provisions d'amour. Rappelez-vous les provisions d'amour venant d'un Dieu d'amour Et ce matin, nous voulons focaliser sur les versets 33 et 34, qui nous parlent des provisions fournies par Dieu contre les puissances spirituelles. Alors, regardez votre texte encore au verset 34, où Paul pose la question, ou plutôt les questions suivantes. Qui accusera les élus de Dieu et qui les condamnera? Et ensuite, il va donner les réponses. C'est Dieu qui justifie. Et ensuite, il nous dit que Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alors tout d'abord, on voudrait mettre ce texte dans son contexte. Nous assistons ici à un procès qui se passe devant le tribunal divin. Et comment est-ce que nous pouvons être certains de cela? Mais c'est à cause des mots que Paul utilise. Il va utiliser des mots tels que « accusera », « justifie », « condamné », « intercède », ou plutôt, si vous voulez, « plaider la cause de ». Et comme vous le savez, tous ces mots sont des termes juridiques. Et pourquoi est-ce que Paul nous amène justement devant le tribunal de Dieu, le plus haut tribunal qui soit? C'est la Cour suprême, si vous voulez, de l'univers. Parce que Paul sait que si on peut établir la sécurité du croyant devant ce tribunal, que le croyant est absolument, totalement, éternellement sécur, parce qu'il n'y a pas d'autre tribunal qui existe ailleurs qui peut renverser la décision qui est rendue à ce tribunal. Et ça, c'est le but de ces textes, justement, pourquoi Paul nous amène devant le tribunal de Dieu. Comme j'ai dit, c'est la Cour suprême. Alors, dans un premier temps, on va regarder les acteurs. Vu que c'est un procès, il y a le juge. Et nous l'avons dans le personnage de Dieu qui est le juge. Le texte dit que c'est Dieu qui justifie ou qui déclare les accusés justes. Juste quelques textes pour illustrer ce point que Dieu est un juge. Psaume 58, 12, pas besoin d'y tourner, mais le texte dit ceci, « Les hommes diront, oui, il est une récompense pour le juste. Oui, il est un Dieu qui fait quoi? Qui juge sur la terre. » Alors, Dieu est un juge. Dans Ecclésiaste 3, 17, l'Ecclésiaste dit ceci, « J'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a un temps pour toutes choses. » Et un dernier texte dans Hébreux 12, 23, où est-ce que l'auteur fait un contraste entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Il dit ceci, « Vous vous êtes approchés du juge qui est le Dieu de tous. » Alors nous avons Dieu qui est là, présent à ce procès comme le juge. Nous avons aussi un avocat de défense. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Christ. À la fin du verset 34, qu'est-ce que nous lisons? Il intercède, il plaide. Alors ça, c'est le boulot, justement, d'un avocat de la défense. Il va plaidoyer. Il va plaider la cause des accusés. Et ce texte nous fait penser à 1 Jean 2, verset 1, qui nous dit ceci, que nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. Alors nous avons le juge, qui est Dieu. Nous avons un avocat de la défense, qui est Jésus-Christ. Ensuite, il y a des accusés. Et qui sont-ils? Mais le texte nous dit, les élus de Dieu. Verset 33a. Et un texte parallèle que nous trouvons dans Apocalypse 12, 10, nous dit ceci, que les croyants, les frères et les sœurs, sont accusés devant Dieu jour et nuit. Alors ce matin, ce procès vous concerne. Il me concerne aussi. Nous sommes sur le banc des accusés ce matin. Et aussi, il y a l'assistance. Qui sont-ils? C'est les anges. Ils ne sont pas mentionnés spécifiquement dans ces versets. Mais si vous lisez les textes dans Job, Job 1:6, nous voyons que les anges sont présents. Le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant Dieu, devant l'Éternel, et nous voyons que les anges aussi sont à la cour de Dieu. Et voilà, tout est en place, ou presque. Il nous manque un acteur clé. Et j'imagine que vous êtes en train d'y penser, qu'est-ce qui manque ici? Alors, il nous manque celui qui, selon notre texte, amène l'accusation contre les élus, qui cherche à les faire condamner. Et je vous pose la question, selon vous, qui dans tout l'univers est assez audacieux, assez effronté, comme on dit en bon québécois, assez du front autour de la tête, pour aller devant Dieu et pointer du droit ses élus, ou selon le texte, les accuser, les condamner? Et je suis certain, vous avez tous la réponse. C'est notre adversaire, c'est Satan, c'est le diable. Et on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il est si opposé, si contre le peuple de Dieu? Mais Satan, c'est l'ennemi juré de Dieu. Il est Dieu, et par extension, il est aussi tout ce qui appartient à Dieu. Alors, il vous est aussi. Il nous est aussi. Il est les élus de Dieu. Et il cherche toujours, si c'est possible, à détruire l'œuvre de Dieu. Et même aussi, essayer d'ébranler le croyant, l'élu, dans sa sécurité. Et d'ailleurs, c'est ce que son nom dit, veut dire. Satan, dans l'original, signifie l'adversaire. On peut avancer. 1 Pierre 5:8 nous dit ceci: soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant celui qui dévorera. Alors, quand on parle de Satan, on parle de quelqu'un qui est un adversaire, qui est contre. Et deuxièmement, quand on l'appelle diable, diablos dans l'original, cela veut dire accusateur, calomniateur. Et nous savons que dans Job 1 et 2, on voit que Satan joue bien ce rôle. Il va se présenter devant Dieu, puis il va dire à Dieu, quand Dieu lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et juste et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan va répliquer, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint l'Éternel? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Et son application, c'est Job, ne t'aime pas pour ce que tu es, mais pour ce qu'il peut recevoir de toi. Alors, son argument, tu enlèves Dieu, c'est Nanan, puis je suis certain qu'il va te maudire en face. Quelle accusation! Et quelle atteinte à l'intégrité de ce serviteur fidèle de Dieu. Et un autre texte aussi, nous avons dans Zacharie 3, pas besoin d'y tourner, mais il y a un texte qui nous montre Josué, le souverain sacrificateur, qui est là devant l'Éternel. Le texte nous dit qu'il est revêtu d'habits sales et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Alors, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Satan joue bien son rôle. C'est le diable, l'accusateur. Et c'est même possible que ce matin, il est devant Dieu, parce qu'il a accès, comme la parole de Dieu nous démontre, quand même toujours au ciel. Et c'est possible qu'il est là ce matin en train de vous accuser, de m'accuser. Alors, les acteurs sont en place et la session de la cour peut commencer. Et on va appeler à la barre le procureur Satan. C'est lui qui va porter ce matin l'accusation contre les élus, les défendeurs, si vous voulez. Et regardez le texte, pose la question maintenant, qui accusera les élus de Dieu? Et j'entends Satan dire, oui, c'est moi, je vais le faire. Dans l'original, le mot accusé veut dire appeler en justice, s'avancer en accusateur et apporter des charges contre. Et ce matin, on va utiliser un peu ce que j'appelle notre imagination sanctifiée. On est devant ce tribunal, Satan s'avance, gros sourire sur les lèvres. Il est sûr de lui-même. Il a bien étudié le cas. Il a apporté des piles et des piles de documents. L'évidence est accablante. Il est certain qu'il va gagner sa cause. Et il est sur le point de commencer quand tout d'un coup, Dieu le juge, lui coupe la parole et prononce les paroles suivantes. « Moi, Dieu, le juge de tout l'univers, je déclare les accusés justes. » Et c'est ce que le verset 33b nous dit, c'est Dieu qui justifie. Et Dieu prend son marteau. Il frappe sur son bureau. Il a dit « Case dismissed ». L'accusation est rejetée. Cette session de la cour est levée. Et les anges applaudissent. Yeah! Satan, lui, est frustré. Il est en colère. Comment Dieu a-t-il pu prononcer de telles paroles? Comment a-t-il pu déclarer des injustes, des coupables juste, n'est-il pas un juge de qui on s'attend la justice? Et Satan connaît la Bible. Hein? Quand il est allé tenter Jésus, il a cité la parole de Dieu. Alors, il sait ce qui est dans la parole de Dieu. Puis, il sait que Genèse 18, 25 dit de Dieu, celui qui juge toute la terre, quand Abraham a parlé à Dieu, il a dit, celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Alors, ça cloche dans la tête de Satan. Et il pense aussi à Deutéronome 32, 4, qui dit que Dieu est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. Job 8, 3, nous lisons ceci, « Dieu renverserait-il le droit? Le Tout-Puissant renverserait-il la justice? » Et Satan dit, c'est pas possible. N'a-t-il pas dit de lui-même dans Ésaïe 45, 21, je suis le seul Dieu juste et qui sauve? Et même aussi, n'a-t-il pas donné des ordres aux juges terrestres en leur disant, écoutez vos frères et jugez comment? Jugez selon la justice. Okay. Qu'a-t-il fait? Il a déclaré juste ceux qui sont coupables. C'est de l'hypocrisie, c'est une travestie de la justice. Comment Dieu peut-il dire qu'il est juste et en même temps déclarer juste des coupables? Il devrait plutôt les condamner. Et Satan dit ceci, je m'en vais en appel. Et c'est ce qu'il va faire. Regardez votre texte au verset 34. Ah! Qui les condamnera? Et ça, c'est la signification dans l'original. Ce mot veut dire qui va apporter un jugement contre? Qui va juger digne de châtiment? Qui va déclarer coupable et condamner à la punition? Et Satan revient à la charge. Il n'est pas content, il est frustré. Il dit non, j'accepte pas cela. J'ai des noms. J'ai des événements, j'ai des témoins. Et là, il commence. Abraham, Dieu, ton ami, n'était-il pas coupable quand il a menti à Pharaon à propos de sa femme et l'a exposée à l'adultère? Et son fils Isaac n'était pas meilleur que lui, il a fait la même chose. On peut avancer. Jacob n'est-il pas coupable quand il a utilisé de ruses pour voler la bénédiction de son frère Ésaü? Moïse n'est-il pas coupable quand il a tué un Égyptien et l'a caché dans le sable? David n'était-il pas coupable quand il a couché avec la femme de Uri et ensuite a orchestré sa mort? Et Salomon n'était-il pas coupable quand il a abandonné Dieu pour se prosterner devant des faux dieux? Alors, Satan dit à Dieu, « Voilà, Dieu, ce qu'ils ont fait, ce que tu as déclaré juste. Ils sont coupables de faux témoignages, des mensonges, du vol, meurtre, idolâtrie, adultère, juste pour en nommer quelques-uns de leurs péchés. Et je suis certain, Dieu, que si tu regardais ceux qui sont tes élus, ton peuple réuni à 225 loupiens ce matin, qui porte le nom de l'Assemblée chrétienne de Cap-la-Madeleine, même s'ils n'ont pas passé là, Dieu, tu es capable d'aller dans les cœurs. Et je suis certain, Dieu, que tu verrais des attitudes semblables chez eux et même chez celui qui est en train de parler. Et que dit ta loi, Dieu, s'il pêche contre un seul de tes commandements, il devient coupable de tous. Alors, Dieu, si tu veux être juste, si tu veux être le Dieu juste que tu prétends être, tu dois les condamner. Et j'exige pas moins que la peine capitale, qui est la mort éternelle, comme c'est stipulé dans ton livre, dans l'Écriture, aux Romains, chapitre 6, au verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Alors, Dieu, je réclame que la justice soit faite. Et Satan s'assoit en disant, je termine. Et ça, c'est la problématique que nous avons dans la parole de Dieu, Romains 3, 26. Comment Dieu peut-il montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus? Comment Dieu peut-il faire cela? Et c'est exactement ce que les textes qui suivent vont nous démontrer. Les accusés vont être acquittés, oui, mais à cause du plaidoyer de l'avocat de la défense, Jésus. Alors, on appelle Jésus à la barre. Et il va présenter quatre arguments, quatre raisons pour lesquelles le croyant ne peut être déclaré coupable. Et quatre arguments qui vont sceller définitivement et de manière absolue la sécurité du croyant. Alors, on utilise toujours notre imagination. Sanctifié, Jésus commence alors son plaidoyer. Il regarde Satan en plein face. Il est vrai, oui, il est vrai que ses élus sont coupables. C'est vrai, il est vrai. Et qu'ils méritent la mort, comme notre loi stipule. Mais la pénalité exigée a déjà été payée, et c'est moi qui l'ai payée. Est-ce que le procureur a-t-il oublié par chance ce que le livre dit? Marc 10, 45, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme le rançon, la rançon de beaucoup. Ou a-t-il oublié par chance ce que Romains 5, 6 dit? Christ est mort, pauvre, des impies, des coupables. Ou encore dans 1 Corinthiens 15, 3, Christ est mort pour nos péchés. Ou a-t-il oublié la raison pour cette mort que nous trouvons dans Romains 5, 19, car par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Alors, je veux dire devant la cour ici, la pénalité a été payée. Les exigences de la loi ont été satisfaites et justice a été faite. Ça, c'est le premier argument du Seigneur. Deuxièmement, est-ce que le procureur a oublié qu'après ma mort, mon père m'a ressuscité? Pour démontrer que la pénalité n'a pas été seulement payée, mais que le paiement a été accepté. Le paiement a été accepté. Et cela démontre que justice n'a pas été seulement satisfaite, mais que Dieu aussi est satisfait. Comme nous lisons dans Actes 2, 23, 24, c'est Pierre qui parle. Pierre parle de Jésus, de moi, dit Jésus. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Et au verset 32, il ajoute, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Et Jésus continue, puisque je suis ressuscité, et pour ne plus mourir à cause du péché, je veux que les accusés qui sont ici sachent que tout a été complètement réglé. J'ai pris tout le péché à mon compte. Ils n'auront plus à craindre la mort. Et s'ils vivent encore dans la crainte, ils n'auront qu'à lire Romains 6, 9 et 10, où il est écrit, « Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. » Et Jésus continue, « Oui, je ne meurs plus parce que il ne reste plus de péché pour lequel je dois payer en mourant une autre fois. » Il ne reste plus de péché. Je ne meurs plus parce qu'il ne reste plus de péché pour lequel je dois payer en mourant une autre fois. Et pour être certain que les élus ont bien compris, je leur demande de faire référence à Hébreux 9, 25, où on dit de moi, et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est offré, il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien, autrement il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant à la fin des siècles, j'ai paru une seule fois pour effacer. Faire disparaître complètement devant Dieu le péché par mon sacrifice. Oui, justice a été faite. La pénalité a été payée. Et mon Père est satisfait. Le paiement a été accepté. Et Jésus continue, et je n'ai pas terminé, j'ai un troisième argument. J'ai été élevé en dignité. Et j'occupe une position d'honneur à la droite de mon Père. Que dit le livre en parlant de moi, dit Jésus? Psaume 110, 1. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Et encore dans Éphésiens 1, 20, 21. Dieu a déployé sa puissance en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et Jésus continue, j'aimerais que ceux qui sont ici, les accusés, et ceux qui sont partout dans le monde, et même ceux qui sont à 225 loupiens, ceux qui sont mes élus, sachent. Je veux qu'ils sachent qu'ils occupent la même position avec moi. Je veux qu'ils sachent qu'ils occupent la même position avec moi. Et s'ils ne sont pas convaincus, ils n'ont qu'à consulter Éphésiens 2, 4 à 6, où mon apôtre Paul leur dit, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts pour nos offenses, il nous a rendus vivants avec le Christ, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus. » Et je veux que mes élus sachent aussi que cette position exaltée est permanente. Hébreux 10, 11 dit de moi, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Je ne perdrai jamais cette position exaltée. Et puisque mes élus sont assis ensemble avec moi, ils ne la perdront jamais. Et c'est ce que le verset 14 de ce même texte dit pour renforcer cette vérité par une seule offrande. Moi, Jésus, a amené à la perfection. Comment? Pour toujours. Oui, pour toujours, ceux qui sont sanctifiés. Quel bel argument. Assis ensemble dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Jésus qui est assis pour toujours à la droite du Père et les élus assis avec Christ pour toujours dans cette même position, position exaltée. Et Jésus termine en disant ceci, finalement, mon dernier argument, j'exerce toujours mon ministère d'intercession pour mes élus. Je l'ai exercé pendant mon ministère terrestre. Ésaïe 53, 12, ne dit-il pas de moi, il partagera le butin avec le puissant, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour qui? Les coupables. Jésus dit à Satan, oui, j'ai intercédé pour les coupables. Et quel était le résultat? Qu'ai-je fait pour ceux que le Père m'avait donnés? Je laisserai Jean 17, 12 répondre à cette question. Lorsque j'étais avec eux, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de perdition, Judas, afin que l'écriture soit accomplie. Et là, Jésus va regarder Satan, il va dire, « Et qu'ai-je fait quand toi, l'accusateur, tu as essayé de vaincre la foi de mon disciple Pierre? Qu'est-ce que j'ai dit à Pierre? Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous faire cribler comme le froment. Et est-ce que Satan a-t-il réussi? Certes, mon disciple a échoué. Il m'a renié trois fois. Mais sa foi, elle, n'a jamais été vaincue. Car moi, Jésus, je lui ai dit, j'ai prié pour toi. Et je lui ai même encouragé en lui disant, « Toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Et c'est ce qu'il a fait. Repentant, restauré, après son reniement, il m'a servi fidèlement le jour de la Pentecôte. Il a prêché un serment puissant. Et là, il y avait 3000 âmes qui ont été sauvées. Et vous, mes élus, accusés, j'aimerais que vous sachiez que j'exerce le même ministère envers vous maintenant. Vous êtes continuellement dans mes prières. Dans mon intercession devant le Père pour vous, contre les attaques et les accusations de l'adversaire. Et n'oubliez pas ce que vous avez été enseigné dans Hébreux 7, 25, à propos de moi. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Et Jésus continue, il a dit, « Si je n'ai perdu aucun de ceux que le Père m'avait donné pendant que j'étais sur la terre, et je suis le même Jésus, le même hier, aujourd'hui et éternellement, alors je ne perdrai aucun de vous non plus, vous que le Père m'a donné. » Rappelez-vous de Jean 10, 28, 29. Vous êtes sécure dans ma main. Vous êtes sécure dans les mains de mon Père. Et personne, même pas l'accusateur qui est là, ne peut vous ravir de nos mains. Et en passant, en parlant des mains, regardez les miennes. Que voyez-vous? Elles ont été percées, percées pour vous. Et quand vous trébuchez sur la route, et quand l'adversaire vient pour vous accuser devant le Père, je veux que vous sachiez que je lui montre mes mains et mes pieds, et mon front et mon côté, et je plaide l'efficacité de mon sang versé pour vous, comme je suis en train de faire maintenant. Je termine mon plaidoyer en faveur des accusés avec une dernière preuve tirée du Saint-Livre. 1 Jean 1, 7. Le sang de Jésus, mon sang, les purifie, vous purifie de tout, oui, de tout péché. Jésus dit, j'ai terminé, il va s'asseoir. Waouh! Hein? Quels arguments et quel plaidoyer. Comment est-ce que ce procès aurait pu terminer? Mais en pensant à cela, j'ai pensé à ce texte auquel j'ai fait mention au début, qui se trouve dans Zacharie chapitre 3. Pas besoin d'y tourner, mais je vous donne encore le contexte. Il y a Josué qui est un souverain sacrificateur, un homme de Dieu qui est là. Il est revêtu d'habits sales. Ça nous dit qu'il est tombé dans le péché. Et Satan est là à sa droite, qui est prêt pour l'accuser. Et peut-être ce matin, vous êtes en train de vivre une situation difficile, je ne sais pas. Peut-être vous êtes en train de vivre une défaite spirituel et vous vous identifiez avec Josué, couvert de vêtements sales. Pire encore, vous vivez avec une poids de culpabilité ou de condamnation. Ça peut venir de vous-même ou même des autres. Si tel est votre cas, j'aimerais vous encourager. Ne soyez pas un pion entre les mains de Satan en vous condamnant vous-même. Vous savez, quand Jésus était en présence de cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, il a posé cette question percutante, « Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il pas condamné? » Et sa réponse, c'est non, non Seigneur. Mais qui aurait pu accuser cette femme? Jésus, des paroles de grâce qui sortent de sa bouche, « Je ne te condamne pas non plus, mais va et ne pêche plus. » Ou si vous voulez, va et ne pratiquez plus le péché. Jésus est en train de dire à cette femme, il y a une place pour la repentance, il y a une place pour la restauration et la pratique des œuvres dignes de la repentance. C'est pourquoi Jean 1, 9, c'est un texte qui est tellement plein de consolation. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et si on revient à cette illustration que je suis en train d'utiliser avec Josué, le souverain sacrificateur, qui est là, un homme de Dieu, mais revêtu d'habits sales, Dieu intervient. Satan est là pour l'accuser. Mais Dieu intervient. Il va dire à Satan, Satan, l'Éternel te réprime. Il va donner une réprimande sévère à Satan. Et ensuite, il va dire aux anges, ôtez-lui les vêtements sales et le revêtir d'habits de fête. Et ça nous parle de la joie, de la communion restaurée. Et mettre un turban pur sur sa tête. Et là, Dieu dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Quelle purification par le sang de Christ. Satan aimerait nous écraser. Il n'est pas capable. Christ est là. L'Éternel te réprime. Ce sont mes élus. Mon sang a été versé pour eux. Quand ils confessent leurs péchés, je les purifie. Et vous savez, peut-être ce matin, vous avez pris l'habitude, et je ne vous accuse pas, ce serait à l'encontre de mon serment, mais vous connaissez vous-même combien c'est facile, je parle moi-même, de regarder justement les fautes des autres, et parfois aussi de condamner. J'aimerais vous encourager d'être plutôt un intercesseur, à l'instar de Christ. Il intercède pour nous. Et quel exemple nous avons dans la parole de Dieu de cet homme, un Épaphras. La Bible nous dit de ceci en parlant d'Épaphras, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez ferme, disposé à faire toute la volonté de Dieu. Quel homme de Dieu et quel ministère puissant. Et que le Seigneur suscite parmi nous des Épaphras, on a tellement besoin. Et finalement, si vous ne connaissez pas le Christ comme votre sauveur personnel, laissez-moi vous dire une chose. Vous êtes accusé. Pas par nous, ou qui que ce soit, mais par la parole de Dieu. Et pire encore, vous êtes déjà condamné. Jean 3, 18 nous dit ceci, « Celui qui croit en lui, Jésus, n'est point jugé, n'est point condamné. » Mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Je vous laisse avec une dernière parole. Tout cela peut se changer ce matin. La Bible nous dit ceci, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Quelle grâce, quelle merveilleuse grâce! Que le pécheur peut être déclaré juste, sauvé aujourd'hui et sauvé pour l'éternité. Et comme quelqu'un a bien dit, sauvé un jour, sauvé toujours. On va prier. Seigneur, on te remercie pour ta parole. Merci pour le Christ, notre fidèle intercesseur à ta droite, qui malgré nos infirmités, nos imperfections, nos péchés, nos lacunes, nos manquements, intercède pour nous contre les attaques et les ruses du malin. Merci que nous sommes en lui revêtus de toute ta justice. Tous nos péchés passés, présents, futurs ont été effacés. Et nous présenter devant toi purifiés par le sang de l'agneau. Quelle sécurité. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à vivre alors dans la plénitude de cette vérité, que nous ne portons pas des poids de culpabilité ou de condamnation qui ne viennent pas de toi. Tu nous demandes simplement de nous purifier journalièrement en confessant nos péchés. Merci que notre Sauveur a vaincu le malin et maintenant, personne dans tout cet univers peut nous condamner, peut nous accuser. Quelle grâce, quelle bénédiction. Seigneur, sois miséricordieux aussi à l'égard de ceux qui ne connaissent pas encore. Notre prière pour eux ce matin, qu'ils puissent être sauvés avant qu'il ne soit trop tard. Sépare-nous avec ta bénédiction. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen.